compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Je rêve d'une œuvre où la profondeur donnerait la main à la légèreté, comme la marche à la danse. Cette phrase de Nietzsche correspond parfaitement à son œuvre à lui, profonde et légère, trépidante et précise. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Pourquoi si peu de films, 8 au total en 50 ans de cinéma? Parce que, dit-il, quand on est vraiment engagé dans un film, ce film devient une raison de vivre. Bonjour Jean-Paul Rapneau.
Bonjour.
8 raisons de vivre, de la vie de château à belle famille et entre les deux d'autres merveilles. Les mariés de l'an 2, Le Sauvage, Tout feu tout flamme, Cyrano, Le hussard sur le toit et Bon voyage, vite énoncé. Longuement mûri, ces histoires épiques, comédies élégantes, explosives, parfois d'amour la plupart du temps. Nous les parcourrons ce matin avec vous, Jean-Paul Rapneau, ces partitions peuplées de grands solistes, Deneuve, Belmondo, Depardieu, Binoche, Noiret, Montand, Adjani, n'en jetez plus. Et sinon, depuis aujourd'hui, tous enfermés dehors, comme dirait Dupontel, et toujours pas de salle de cinéma, alors des choix de livres et de films à lire et à regarder chez soi. C'est parti. Cette musique, signée Michel Legrand, c'est celle de votre premier générique, celle du premier film Jean-Paul Rapneau, La vie de château. Et sur cette musique, des photos de Catherine Deneuve, en très gros plan, de face, de profil, les yeux, ses yeux, sa bouche, ses cheveux, comme un hymne à sa beauté. Il est étonnant ce premier générique.
Oui, peut-être.
On peut le dire.
Bah oui.
Non, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, bien sûr. Mais la vérité, c'est que je l'ai composé avec un garçon qui s'appelle toujours, ça sera intéressant de savoir, Valerian Borowczyk, un réalisateur polonais,
oui.
Réalisateur de dessins animés en Pologne, et puis ensuite il est venu en France où il a fait des films de long métrage, mais il avait un sens justement du dessin extraordinaire. Et c'est lui qui a eu cette idée de faire sur le visage de Deneuve, en regrettant, disait-il, que je n'ai pas tourné des plans où elle était sans vêtements, enfin nue.
Alors, oui, il aimait bien les actrices dénudées.
Oui, d'ailleurs, il a fait ça dans ses films personnels. Alors je lui ai dit, ben non, ça n'y a pas dans le film. Ah, bon, alors on peut peut-être faire sur le visage. Ah ben oui, bien sûr, sur le visage. Et voilà, on a composé ça. Et ça donne déjà, enfin, ça, plus la musique de Michel Legrand sur ce générique, j'ai déjà le frisson. Enfin, j'avais.
C'est drôle parce que c'est un peu en contraste avec la suite du film qui sera plus agitée, effectivement. Et déjà, dès ce premier film, La vie de château, il y a les prémices de tout votre cinéma. Il y a la grande histoire, la Seconde Guerre mondiale, un couple, des rebondissements, de l'amour, des bagarres.
Une maison.
Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte, en écrivant que... en fait, c'est pas drôle comme sujet de la Seconde Guerre mondiale, mais que ça allait être drôle, presque contre votre gré, en écrivant...
Oui, non mais le film est parfaitement conforme à ce que j'avais l'intention de faire. Mais vous parlez de la drôlerie du film,
oui.
qui n'était pas prévu.
Oui, c'est ce que vous avez dit après. Vous avez dit,
bon, j'ai
écrit une histoire très sérieuse, mais en l'écrivant, ça devenait drôle.
Mais
à l'écriture, ça devenait drôle.
Ouais.
Ça devenait
drôle. Juin 44, dans un château du bord de mer normand, un couple que tout oppose. Jérôme Noiret, un homme tranquille et casanier, et son épouse Marie, une jeune femme aussi belle que pétillante, qui n'a qu'une envie, c'est d'aller à Paris. Pendant ce temps-là, un résistant est parachuté dans la région, il rencontre la belle châtelaine et tombe fou amoureux, tout comme le commandant allemand. C'est ça le propos.
Oui. Oui, c'est ça. Mais alors, il se trouve qu'elle a... On en parle peu quand on raconte l'histoire, mais il y a quelqu'un qui jouait un grand rôle, c'est le père de cette, voilà, de cette jeune femme.
C'est Pierre Brasseur.
Et c'était Pierre Brasseur. Mmh. On n'oublie pas quand même la place qu'il tenait dans le cinéma et dans le théâtre, mmh, enfin dans les films. On n'oublie pas Les Enfants du Paradis, on n'oublie pas Quai des Brumes, ouais, on n'oublie pas. Et mais moi, je ne l'oublie pas dans La Vie de Château, où sa voix... Moi, je porte un culte aux grandes voix, mmh, et notamment à cette voix de Brasseur.
Et ben là, on va être servi parce que la voix de Brasseur et la voix de Noiret.
Et la voix de Noiret.
Plus la voix de Neuve, il engueule sa fille, Brasseur.
Tiens !
C'est un message pour toi.
Ah ?
Oui, voilà. Messaline, jambes en l'air, dévergondée, fille à quatre, dis-moi ! Ouf, je pense qu'il me retient.
Mais...
Alors tu viens jouer la comédie à ton père. Papa, mon mari ne m'aime pas. Il est derrière mon dos. Tu débauches ton meilleur soldat.
Oh, ce type dans la chapelle?
Oui, ce type, comme tu dis, c'est un héros de l'armée secrète.
Oh, c'est pas vrai.
Comment c'est pas vrai? Attends, il est plus dans la chapelle, d'ailleurs. Il est en Angleterre.
En Angleterre?
Oui, en Angleterre. Mais avant de partir, il m'a tout raconté.
Il racontait quoi? Il ment, il arrête pas de mentir, je le connais.
Ah, toi, tu avoues?
Mais c'est faux! C'est faux, archi faux! Et puis tu m'agaces à la fin!
Ah, mon cher beau-père.
Il m'a giflé.
Non, mais... Hier, vous insultez ma mère, aujourd'hui, vous parlez ma femme.
C'est ma fille, ça me regarde.
Pardon?
Je vous remplace. Je la surveille.
Mais voilà le genre de réflexion que je ne supporte pas.
C'est dommage.
Foutez-moi le camp.
Soyez polis, hein.
C'est la dernière fois que je vous mets à la partie, vous venez, je vous tire dessus.
Avec quoi, mon pauvre ami? Vous n'avez jamais pu vous servir d'un fusil de votre vie.
Va-t'en, papa.
Non, non. Pas avant que tu saches pourquoi monsieur ne t'emmène pas à Paris. Pourquoi monsieur reste ici à cueillir des pommes et des reines Claude. Moi, j'ai compris. Permettez que je lui dise. Parce qu'il a peur de tenir un fusil. Parce qu'il a peur de se battre. La petite fille, ton mari t'a planqué. Un embusqué.
Les Allemands.
Quoi, les Allemands?
Dans la cour.
Bon, l'émission n'est pas filmée, mais je vous décris quand même Jean-Paul Rapneau, écoutant les extraits, plus de 50 ans après. Il les dit à la phrase et au mot près, c'est absolument impressionnant. Et La Vie de Château, à l'arrivée, 500 000 entrées dans trois salles pendant un an.
Et vous dites... plus que ça.
Ah, plus que ça,
à
même.
À la fin de l'année.
Vous avez dit, le succès m'a un peu déstabilisé. Ça a renforcé ma tendance naturelle à m'interroger.
Oui, absolument. Enfin, le film a pratiquement fait...
2 millions
presque 2 millions.
Oh là là, j'étais complètement en dessous. Oui.
À 500 000 à Paris, peut-être.
Oui, premier film.
Mais vous faisiez en plateau, ici, ce que vous faites sur le plateau de tournage, parce que les acteurs disent, au fond, il y a une indication, c'est on va imiter Jean-Paul, et comme ça, on jouera le rôle.
Oui, exactement. Voilà. Je vois que vous les avez écoutés et ils disaient cela. Mais je peux pas m'empêcher de jouer en même temps qu'eux, oui.
Et même Noiret vous aurait viré du plateau à un moment.
Oui, parce que...
C'est vrai, ça, ou pas?
Oui, il dit, je ne peux pas jouer... Disait-il, je ne peux pas jouer devant un autre acteur qui est en train de jouer la même chose.
C'est troublant.
C'est pour cela qu'il s'est écoulé 5 ans entre La Vie de Château et Les Mariés de l'an 2. Donc, votre deuxième film avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert. On raconte en deux mots l'histoire. Nicolas Philibert Belmondo, un Français exilé en Amérique, s'enrichit et s'apprête à épouser une riche héritière. Avant cela, il doit divorcer de sa femme Charlotte, donc Marlène Jobert, qu'il part retrouver en France. Mais en France, il y a la Révolution. Encore un couple et encore la grande histoire, Jean-Paul Rapneau. Ce film a été difficile à monter, hein, Les Mariés de l'an 2. Long. Oui.
Oui et non. Oui et non. Vous oubliez de dire qu'en fait, cette loi permettant le divorce a été inventée par la Révolution.
Mais oui, très important.
C'était la constituante ou c'est... Enfin, bon, a été inventée à cette époque.
Quoi qu'il en soit, les révolutionnaires, en
peu importe. Et en fait, tous les Français qui en fait s'étaient séparés de leur femme sont retournés en France à toute vitesse pour profiter de cette loi. Et on voit ça dans le film d'ailleurs. Mais j'ai vu ça dans les gravures. Ouais. C'est qu'il y avait la queue devant les mairies. La queue des futurs divorcés.
Folle poursuite, bagarre, rebondissement. Donc, vous avez un petit peu changé de vitesse même depuis La Vie de Château. Mais on va écouter une scène apparemment calme, enfin au début, entre Belmondo et Marlène Jobert, justement.
Tu sais, cette fille, cette femme, enfin, cette jeune fille, parce qu'elle n'est pas mariée, elle voulait...
Se marier.
Oui, justement. Mais elle ne pouvait pas épouser un homme déjà marié.
Ça, c'est sûr.
Ah, t'es d'accord?
Arrête de bouger.
Mais tout bouge, mon mano, tout. Regarde leur évolution, ça bouge. Par exemple, un couple. Au début, il est heureux. Après, il se dispute. Maintenant, ça s'arrange. Il y a le divorce.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est cette nouvelle loi, tu sais. On va à la mairie, on signe un papier et c'est fini. Il n'y a plus de mariage.
C'est idiot.
Aïe.
T'as un cheveu blanc.
Je disais donc.
Allez, t'es beau maintenant, embrasse-moi.
Oui, bon, alors, Margaret...
La fille d'Arthur?
Oui.
Elle veut t'épouser, c'est ça?
Eh ben, oui, exactement, t'as deviné. Alors, du coup, j'avais pensé que toi et moi, on aurait pu... Enfin, bref, on pourrait divorcer.
C'est pour ça que t'es revenu?
Oui.
Et c'est maintenant que tu le dis?
Quand voulais-tu?
Parce que cette nuit, pas question de divorce, tu penses à autre chose.
Oui.
Ah, ne me touche pas, tu me dégoûtes. Toujours aussi menteur, aussi lâche. Quand je pense que j'ai gâché ma vie avec ça.
Non mais dis donc.
Gâché mon enfance, gâché ma jeunesse. Qui c'est qui m'a toujours couru après, hein? Qui c'est que j'avais sur le dos chaque fois que je dansais, je pouvais rien faire. Toujours dans mes jambes. Toujours à penser à ce que je pense.
Tu disais pas non.
J'ai honte, honte. Et en plus que je trouve un ami, il me l'assassine.
Moi?
T'as battu le baron peut-être?
Il m'avait provoqué. Ah, et puis écoute, ça suffit maintenant, hein?
Sauvage, grossier,
cousin. Ah non, mais t'as fini de m'injurier, hein?
Espèce de turcien.
Envoie ça.
Je vous l'air, comédien.
Ah ça, tu vas me le payer.
C'est beau cette tonalité, hein, qui monte dans le couple avec la musique de Michel Legrand.
Oui, et les dialogues de Daniel Boulanger.
Oui.
Qui avait déjà opéré sur la vie de château.
Oui.
Un homme que j'adorais et un grand dialoguiste et un grand écrivain aussi.
Et qui avait travaillé avec Truffaut aussi, notamment.
Bien sûr.
Avec cette nouvelle vague que vous n'avez pas suivie parce que tourner à Paris, vous préfériez tourner à la campagne.
Tourner en province.
En province, pardon.
En province.
Madame. Et c'est très beau dans ces extraits. D'ailleurs, on entend des tourterelles, on entend la nature. C'est très frais.
Alors, attendez, ça, c'était dans une province roumaine. Parce que
Oui.
C'était dans un. Oui, c'était dans la campagne près de Bucarest.
En plein règne de Ceausescu.
En plein tournage difficile à cause de cela.
4 ans plus tard, vous retrouvez Catherine Deneuve dans un film contemporain, cette fois, et toujours un couple au centre. On pourrait résumer comme ça. Je te déteste pendant 1h30 pour mieux t'aimer dans les 10 dernières minutes. C'est un petit peu ça, une course de vitesse entre un homme apparemment tranquille et un feu follet. Et une joute amoureuse dialoguée par Jean-Loup Dabadie, qui est parti cette année. Merveilleux, merveilleux dialoguiste, scénariste.
Parce que là, on n'arrête pas de citer des hommes extraordinaires.
Oui, oui.
Et qui sont tous partis. Dabadie Boulanger, Montand, Noiret, Brasseur. Voilà.
Et c'est Dabadie qui vous a orienté vers Montand d'ailleurs, parce que vous vouliez Elliot Good.
Oui, c'est ça. Alors, c'était évidemment l'histoire d'un misanthrope qui voulait dire adieu à la civilisation, qui vivait donc sur une île déserte.
Ouais.
Et je pensais, comme ça se passait là-bas aux Antilles, enfin, au départ, ça devait être dans le Pacifique, puis finalement, on est passé sur l'autre côte. Et je pensais que ça devait être un Américain. Et finalement, quand Raymond Danon, grand producteur de l'époque, grâce à qui le film s'est fait, quand je lui racontais l'histoire, il m'a dit, mais là, c'est un grand film, ça sera un grand film français, ça ne peut pas être avec des acteurs américains. Ah bah si, quand même, c'est l'histoire. Ben non, 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 il faut... Alors, on a inventé cette histoire d'un parfumeur français qui s'est exilé aux États-Unis. Enfin, une histoire compliquée pour arriver à avoir les acteurs français dans cette histoire lointaine. Donc,
Deneuve, Montand. On va les écouter, on y retourne après. Vous avez choisi cette scène. Elle est dans un arbre, elle l'observe de loin et elle voit qu'il répare son bateau avec son moteur. Elle prend sa bicyclette, elle le rejoint sur le ponton.
Hé ! Et moi alors, attendez !
Mais je pars pas, je fais un essai !
Ah bon ? Parce que c'est pas fini encore ?
Ben non, j'ai mis du temps parce que avec ma grippe...
Vous avez eu la grippe ?
Oui, la semaine dernière, mais c'est fini maintenant. Allez, vous voulez m'attraper ça ? Dites-moi, je suis passé vous voir mercredi, vous n'étiez pas là.
À quelle heure?
Ben, vers les 4 ou 5 heures.
Ah, ben c'était marée basse. J'étais allé pêcher dans les cailloux, là-bas de l'autre côté.
Ah, enfin, vous avez trouvé une bouteille.
Quelle bouteille?
Ben, le du Saint-Georges, que j'avais laissé sur la table.
Ah oui, merci. Bon, alors on part quand?
Bah, je ne sais pas, quand on veut.
Eh ben maintenant, pourquoi pas? Je vais chercher mes affaires.
Mais attendez, attendez, il faut quand même pas...
Quoi?
Non, mais je veux dire, on n'est pas à 5 minutes, on peut souffler un peu quand même.
Bon, eh ben alors, demain?
Si vous voulez.
8h, mon cas?
C'est pourquoi, mon cas?
8h? Bon, 8h, formidable. Au revoir.
Non, mais attendez, vous voulez pas monter voir un petit...
Non, merci.
Le Sauvage, Yves Montand n'a pas été très très sympathique avec vous sur ce premier tournage, en Paul Rappeneau. Il avait...
Oui, il était un peu jaloux.
Oui.
Oui, alors on ne se connaissait pas. Hein. Voilà, c'est plutôt Jean-Loup Dabadie, qui le connaissait par cœur, qui m'avait d'ailleurs averti, attention, méfie-toi. Donc on s'est un peu bagarré pendant le tournage, c'est sûr. Et... On s'est un peu battu. Et d'ailleurs, il l'a regretté parce que je me souviens qu'à la fin du tournage, il avait dit, mais je te dois une revanche. On se doit une revanche.
Ouais.
Et on avait décidé de faire un autre film ensemble qu'on a fait quelques temps après. Comme toujours, hein, un peu de temps passe.
Avec vous, oui. Mais,
oui, c'est comme ça.
Oui.
Y a pas de vraie nécessité à enchaîner les films. Bon, on va parler, c'est une longue histoire. Enfin, c'est mon caractère. Comme disait Orson Welles dans Monsieur Arcadine, let's drink to caractère. Buvons au caractère, enfin, buvons au mien, là. Voilà.
Non, mais ce qui est drôle avec vous, Jean-Paul Rappeneau, c'est que vous mettez beaucoup de temps entre les films et vos films à la fois ont un rythme très trépidant. Il y a un contraste fou entre votre réflexion et la vitesse dans vos films.
Oui, ça. Et d'ailleurs, vous devez le constater là. J'écoute ces films qui datent déjà d'un certain nombre d'années, et je ne peux pas m'empêcher de me secouer en même temps.
Oui.
Vous êtes dedans.
Oui, je suis dans le film. Je les vois. Là.
Mais d'où ça vient cette idée de vitesse, ce besoin de rythme, de vitesse, de mouvement?
Ça, il faut pas confondre vitesse et précipitation.
Non, j'ai pas dit précipitation. Oui. Non. D'où ça vient?
Ben parce que bah, peut-être c'est ça qui m'a plu dans les films que j'ai vus dès l'adolescence, pas dans l'enfance, parce que le cinéma m'était interdit. Il faut dire que c'est une époque de sombre, puisque c'est la dernière guerre. Mais quand arrive le cinéma américain et que je découvre justement et dans la comédie et dans le western et dans tout, leur sens du rythme, leur exigence, enfin. Ils avaient même ce run, c'était ce... Et c'était pas... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit avancer sans cesse. Et quand les gens se sont interrogés sur le succès qu'a eu Cyrano dans le monde entier en Suisse, c'est parce que ce que Jean-Claude Carrière et moi, donc, puisqu'on a travaillé tous les deux, le grand Jean-Claude Carrière, qui lui aussi nous a quittés. Bon, c'est ce que l'on voulait, c'est qu'on voulait une faire de cette grosse pâtisserie 1900, là on parle pas du Sauvage, mais de Cyrano, quelque chose qui avance.
Ouais. Donc ça vient de Lou Beach, de Hawks,
ben oui,
etc.
Toutes ces
comédies américaines.
Alors là, c'est plus un Américain, mais c'est un Français, c'est Truffaut qui disait un film, c'est comme un train qui roule dans la nuit. Il faut qu'il y ait ce roulement.
Ouais. Elle avait vu Le Sauvage, elle, à la télé, elle vous appelle dès le lendemain, elle vous dit, je rêve de faire un film avec vous, écrivez-moi une histoire. C'est Isabelle Adjani. Et vous vous dites, et si à la place du couple habituel, on mettait en scène une relation filiale? En fait, c'est la question qui est au départ de ce film, Tout feu, tout flamme. Tiens, on va écouter un extrait entre Adjani et Yves Montand, que vous retrouvez là, cette fois pour ce film, qui sera beaucoup plus sympathique avec vous.
Oui, on
vous l'était promis. Donc en fait, c'est deux promesses. Celle faite à Montand et celle à Adjani. Tu veux un film, le voici, c'est Tout feu, tout flamme.
Excusez-la, monsieur, c'est ma fille. Elle est un peu...
Viens ici. Méfiez-vous de lui. C'est un spécialiste. Il a déjà fait le coup à mon grand-père.
Un petit instant, monsieur, je suis à vous. Une fille si jeune, si belle, que c'est triste pour un père.
Bon, alors maintenant c'est fini, tu arrêtes.
Non, je m'arrête pas, je m'arrêterai jamais.
Ça suffit.
Tu les as tous embobinés, hein, maman, grand-père, tante Alette, mais moi tu m'arrêtes pas.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Je raconte ce qui s'est passé il y a 15 ans à Montpellier, tu as oublié?
Mais dis-toi, tu ne sais rien.
Si, je sais tout.
Mais non, tu étais trop petite.
Maman m'a tout dit.
Eh bien alors, tu n'as pas compris. C'est pour ça que j'achète ce casino. Et cette fois-ci, je réussirai. Ça ne sera pas comme au Montpellier. J'en ferai le plus beau casino d'Europe. Et ce sera pour vous, pour toi, pour tes sœurs.
Quand?
Eh bien plus tard.
Quand tu seras mort?
Ben oui.
Tu peux me donner une date?
Tout ce que tu es, je le déteste. Tu es froide et tu n'as pas de cœur. Tu es comme de la glace, dure et coupante. Tu es le contraire d'une femme.
Tu es le contraire d'une femme, c'est une sacrée réplique, ça, Jean-Paul Rapneau, d'un père
c'est
à sa fille.
Que, qu'elle se jette contre lui, ouais. Elle essaye de le frapper.
Oui. C'est fou.
Oui.
Qui a écrit le scénario de Tout feu tout flamme avec vous?
Alors, là, les dialogues... Enfin, le scénario... Attendez, le scénario, est-ce que je l'ai écrit tout seul? Non, non, attendez, excusez-moi, pardon.
Jean-Claude Carrière, il a revu le scénario.
Oui, le scénario.
Avec Elisabeth Rapneau, vous l'avez écrit.
Oui, c'est ça, avec ma sœur Elisabeth.
Ouais.
Encore une qui nous a quittés. voilà. J'en ris, enfin, je l'adore toujours. Mais en tout cas, elle était co-scénariste du film, avec Joyce Bunuel, une grande amie à nous,
ouais.
Et ensuite Jean-Claude Carrière, comme souvent dans mes films, comme plusieurs fois, donc puisqu'il y a eu plusieurs films, ouais. Pas beaucoup, vous allez encore dire
« Ah, oh, non, 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 rien dit !»
Donc Jean-Claude Carrière étant arrivé en finale, et autant moi, il me faut un peu de temps, autant Jean-Claude, il ouvre, il arrive, et... Le premier geste de Jean-Claude, c'était d'ouvrir son stylo, en franchissant la distance qui le séparait de la table. Il ouvrait son stylo et dans les premières minutes, il a déjà écrit une phrase. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu as écrit? Mais j'ai écrit une phrase à tout hasard, je te la montre. Bon, mais extraordinaire. Hein. Et attendez, c'est le stylo, mais aussi il enlève sa montre en même temps qu'il progresse vers la table, il pose la montre sur la table, et il dit ben, alors il faudra que je m'en aille à 11h30, mais il est déjà 10h35, oui. Donc voilà, bon. Et à 11h30 il est parti, mais il a un paquet de feuilles sur la table.
C'est fou.
Je suis pas obligé de tout garder, dit-il. Relis, tu me diras.
Et justement, 8 ans plus tard, comme le temps passe, on vous propose donc cette pièce Cyrano de Bergerac. Et là, c'est un vrai tandem, effectivement, avec Jean-Claude Carrière. C'est un défi complètement fou, relevé à l'écriture. Donc, il fallait trouver un scénario caché dans la pièce, Jean-Paul Rapneau.
Oui, moi j'ai... Alors, peut-être parce que la pièce a... est apparu en 1897, la même année...
Que la naissance du cinéma.
La projection de cinéma, ouais. Boulevard des Italiens. Donc le cinéma est apparu en même temps que Cyrano. Ça ne joue pas un rôle. c'est comme si un film était caché sous la pièce. Quand on voit la pièce, moi j'ai hésité beaucoup avant d'accepter la proposition qui m'était faite, mais finalement on a quand même restructuré le film dans ce sens-là, dans le sens d'un film, c'est-à-dire d'une tension, d'un rythme, de quelque chose qui avance sans cesse. Il y a beaucoup de tirades dans la pièce qu'on a un peu élagué. On parle des tirades, mais dans la pièce, il faut les dire, ces tirades, et ça amène à un certain statisme de la pièce, parce que le temps qu'ils disent tous ces vers, ces milliers de vers, eh bien, le spectacle s'arrête, le mouvement s'arrête.
Ouais. Alors, en même temps, c'est un rythme, l'Alexandrin. Ça donne un rythme.
Oui, je pense que ça a joué un rôle aussi.
Qui êtes si sensible à la voix.
Oui, oui. Alors là, mon balancement célèbre avait été dans
l'Alexandrin.
Oui, c'est ça. Il y avait les 12 pieds, les 12 secousses de la terre.
Vous avez choisi une de vos scènes préférées. C'est la première. Ouais. C'est pas la tirade. pas du nez.
Non, justement pas.
C'est la première rencontre entre Cyrano et Roxane. C'est magnifique.
Roxane, cet instant est un instant béni. Parfois, vous oubliez que j'existe et respire. Mais qu'importe aujourd'hui. Que venez-vous me dire ?
D'abord, merci.
Pourquoi ?
Ce vicomte, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier, vous avez fait mat. C'est lui qu'un grand seigneur ait pris de moi.
De Guiche ?
Cherchait de m'imposer comme un mari.
Postiche. Je me suis donc battue. Cousine, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux.
Puis je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais, dans le parc, près du lac.
Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine.
J'étais jolie alors.
Vous n'étiez pas vilaine.
Parfois tombée d'un arbre et la main tout en sang, vous accouriez. Alors jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure, qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure ? Oh, c'est trop fort et celle-ci ? Non. Montrez-la. Hein, votre âge encore ? Où t'es-tu fait cela ?
En jouant du côté de la porte de Nel.
Jean-Paul Rapneau, sur Cyrano, vous dites un personnage empêché dans une prison intérieure. Je suis en territoire connu.
Voilà. Il va falloir parler de
moi.
Eh oui,
allons-y.
Mais oui, mais territoire connu pour tous les hommes sur cette terre. Et toutes les femmes aussi. Attention.
N'élargissez pas le cadre, s'il vous plaît.
Pardon. La fermeture. Non mais attendez, je me suis ouvert quand même au long de ces années. Et je voudrais dire aussi que il y a ça quand même, c'est que il y a eu des saisons, il y a eu des chapitres. Après le Sauvage, justement, j'avais travaillé assez longuement avec un autre homme qui n'est plus là, que j'aimais énormément, qui s'appelait Jean-Marc Roberts. Un écrivain, un grand éditeur, un homme merveilleux qui nous manque. Et alors, on avait travaillé sur un sujet que finalement, d'ailleurs, je n'ai pas tourné. Je parlerai de ça tout à l'heure. Il y a plus de films que j'ai écrits, préparés et pas tournés que de films que j'ai tournés. Donc, et avec des signatures. Oui. Et Jean-Marc à l'époque, c'est l'époque où sont arrivés dans ma vie les enfants. Il y a eu le mariage avec Claudie, mais ensuite, très vite, un fils, puis un deuxième fils. Et Jean-Marc venait travailler chez moi chaque matin. Ma femme, elle, travaillait dans un journal, et donc elle partait le matin pour travailler. Donc moi, je restais avec les enfants, et ça m'occupait beaucoup. Et Jean-Marc disait... Quand il voyait l'agitation, enfin, quand il me voyait vivre, tout en restant là pour écrire dans un coin, il disait, si les gens connaissaient ta vie quotidienne, ils admireraient que tu sois arrivé à faire 3 films. À l'époque, j'en avais fait 3. Oui, d'autres choses ont joué un rôle capital dans ma vie.
De nouveau, un bel intervalle de temps entre Cyrano et celui-là, le Hussard sur le toit, un roman de Giono réputé inadaptable, une histoire d'amour dans une Provence rongée par le choléra, un grand choc de lecture à 20 ans. Là encore, il fallait sortir une intrigue de ce roman contemplatif.
Oui, il fallait... Mais il faut dire que j'ai parlé tout à l'heure du rôle qu'avaient joué les westerns dans mes premiers amours pour le cinéma, dans mes premières amours. Et en fait, c'est un peu une des choses qui m'a guidé dans ce film. C'était une sorte de non pas de western mais de southern, enfin un road movie en Provence pendant
en 1832.
Dans les années 1830, oui. Alors qu'une grande épidémie de choléra a ravagé non seulement la France, mais non seulement la France, deux fois de suite. Alors là, je barre.
On est en direct, hein, Jean-Paul.
Ah, bah oui. Non seulement en Provence, mais toute la France, il est mort par cette épidémie, plus de 100 000 personnes, oui, en France, dans les quelques années où le choléra, et dont 20 000 à Paris. Oui, et dans ce que nous vivons actuellement, bon.
Justement, on va en parler juste après, c'est écrit, ah, parce, oui, que l'extrait, alors, en fait référence.
Écoutons la voix de Juliette
dans
Binoche.
Dans une forêt, Angelo, le hussard, Olivier Martinez et Pauline Juliette Binoche, où ils se sont réfugiés.
Tout cet argent est à vous ?
Non, on me l'a confié.
Vous l'emmenez en Italie ?
Oui.
Pourquoi êtes-vous venu en France ? Pour vous cacher ?
Oui.
Où étiez-vous ?
À Aix.
À Aix. J'y ai passé presque 3 mois l'année dernière. Vous y étiez déjà ?
Oui.
Nous aurions pu nous rencontrer. Vous sortiez beaucoup ?
Jamais.
Oui, bien sûr. J'aime cette ville, vous savez, j'ai beaucoup d'amis. Où sont-ils aujourd'hui ? Comme nous, sur les routes. Ou enfermés dans leur maison sans oser respirer. C'est plus fort que moi. J'ai l'impression que tous ceux que j'aime, tous ceux que j'ai connus vont disparaître. Un jour, cette horreur sera finie, mais pour moi, le monde sera vide.
C'est fou, hein, le miroir, avec ce qu'on vit en ce moment, ah, Jean-Paul, oui, Rathnau.
Un jour, cette horreur sera finie, et pour moi, le monde sera vide.
Oui.
Oui. Mais ça m'avait... On a tourné ça dans une forêt derrière Marseille,
oui,
et là-haut, et j'étais quand elle disait cela, j'étais très ému. Je ne pouvais pas deviner que 25 ans plus tard, oui, effectivement, la France connaîtrait cela, parce que nous vivons là.
Elle a une voix de petite fille, Juliette Binoche, dans cette scène.
Oui, pardon.
Elle a une voix de petite fille,
oui, oui,
dans,
oui,
cette,
oui,
scène. Elle prend une voix,
oui.
Mais une fois de plus, vous êtes très attentif à ça. À la voix, à l'intonation.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Parlons des seconds rôles.
Oui.
Oui. Parlons des seconds rôles, quand même.
Vous avez l'oreille.
Oui, on parle que des stars, mais il y a quand même dans ce film, il y a Cluzet, Arditi, Yolande Moreau, Isabelle Carré, Jean-Yann. Sacré casting,
ah, oui,
hein.
Il y a du monde.
Il y a du monde. Il y a du monde. Du beau monde.
Oui.
De nouveau, la Seconde Guerre mondiale, déjà évoquée dans votre premier film, La vie de château, mais cette fois-ci en juin 1940, à l'hôtel Splendide de Bordeaux, sont réunis ministres, journalistes, grands bourgeois, demi-mondaines et espions de tous bords. Et là, un jeune homme devra choisir entre une célèbre actrice et une étudiante passionnée. Donc, la petite histoire croise la grande histoire et la question est de choisir entre collaboration et résistance. Tiens, on va écouter un extrait entre Isabelle Adjani, que vous retrouvez avec Depardieu.
Oui,
et lui joue donc le ministre de l'Intérieur. Mmh. Et elle, c'est une actrice.
S'il vous plaît ! Le petit voisin ! Ah. Non, bravo ! Un assassin ! Et en plus, je l'invite à ma table ! Le jour où se joue le destin de la France ! Non, franchement. Franchement, c'est à hurler !
Vous ne pouvez pas savoir.
Quoi ? Qu'il avait tué Harpel ?
Non, qu'il était ici.
Et pour Harpel, Harpel ! Vous ne le saviez pas ?
Non, je pensais...
Vous saviez très bien ! Et vous me l'avez caché !
Mais non !
On arrête les mensonges, Viviane ! On arrête les mensonges ! Quoi ?
La voiture est en bas, monsieur.
Quel mot ? Non, enfin, dites au chauffeur de monter qu'il prenne les dossiers. Comment voulez-vous que je vous fasse confiance ? Si vous me disiez une fois la vérité. Une fois.
Il l'a fait pour moi, j'en suis sûre. Pour me protéger. Il a été voir Harpel. Je sais pas, ils ont dû se battre. Ils supportent pas qu'on me veuille du mal. Ça a toujours été comme ça.
Ah oui ? Il en a tué d'autres ?
Non. Mais je me souviens, quand il est arrivé à Paris, il allait boxer les journalistes quand j'avais un mauvais article. Un jour, à l'intransigeant, il s'est fait casser la figure.
Oui, bon, c'est très touchant, mais on va pas pleurer.
savez où il est en ville?
Non, pas du tout.
Eh bien, je vais le faire chercher par la police.
Vous avez fait tellement de films, Jean-Paul Rapneau, qu'on n'a pas le temps de tous les évoquer, vous voyez, hein. Notamment Belle Famille. Belle Famille en 2015. Non, juste un petit mot là-dessus sur cet extrait, parce que vous l'avez choisi pour, justement, la petite voix et la grande voix de Depardieu.
Oui, hein, parce que tout à l'heure, vous parliez de la voix de petite fille de Juliette Binoche, enfin, qu'elle prenait dans cette scène.
Oui.
Et là, il y a aussi cela, la voix de petite fille d'Adjani.
Oui, c'est vrai. Et Depardieu.
Chaque actrice devient une petite fille entre mes doigts.
Il y a surtout, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a surtout dans cet extrait des portes qui claquent, et il y a des portes qui claquent dans tous vos films. Oui. Il y aurait une étude et une analyse à faire sur les portes qui claquent dans la filmographie de Jean-Paul Rapneau. C'est un moment très important.
Il faudrait parler à la fin de mon amour du théâtre.
Voilà. Voilà.
La vie de château, Les mariés de l'an 2, Le sauvage, Tout feu, tout flamme, Cyrano de Bergerac, Le hussard sur le toit, Bon voyage, Belle famille.
Revoyez-les.
Ils sont tous, ils sont tous en DVD. Vous restez avec nous, on se retrouve après Jane Birkin. Pas passé un extrait de Belle Famille, faute de temps, mais vous y tenez beaucoup à ce dernier film, Jean-Paul Rapneau, qui était en 2015, avec Mathieu Amalric notamment, et Karine Viard et d'autres. Oui. Et d'autres.
Ouais. Deux que j'aime.
Oui. On va parler de livres déjà, Laurent.
De cours, peut-être d'abord un petit mot.
Oui, bien sûr.
Un petit cours. La fête du court-métrage.
Oui.
Comme chaque année, hein, mais du 24 au 30 mars seulement. Oui. Ben voilà, pas de cinéma, évidemment, pas de salle. Donc uniquement en ligne. 150 films en accès libre et gratuit, faut le dire. 150 courts-métrages avec des catégories, les incontournables, c'est-à-dire des grands classiques. Évidemment du jeune public et puis d'autres thématiques encore, avec même des parcours. Vous avez 5 minutes, alors on vous propose tel film, etc. C'est vraiment très bien fait. C'est sur lafêteducourt.com. Allez-y, il faut évidemment soutenir le cinéma et puis voir des courts-métrages, c'est très important. Les cinéastes de demain seront là aussi.
Très important. Deux livres, Bertrand Blier, Cruelle beauté de Vincent Roussel, chez Marest éditeur.
Oui, c'est peut-être le premier livre, à ma connaissance en tout cas, sur Blier. Bertrand Blier, pour l'instant, il n'a pas beaucoup déchaîné de passion éditoriale et c'est très très bien.
Si, mais je pense que c'est lui peut-être qui freine un
peu. Ah, c'est possible aussi. Alors, cet ouvrage commence d'ailleurs par une introduction. construction très intime, c'est-à-dire sur le rapport qu'entretient Vincent Roussel avec avec Bertrand Blier, celui qui aussi, comme on dit, entre Audiard et Godard. Hein. Et puis il y a une seconde partie beaucoup plus classique, je dirais, où l'auteur analyse film par film comment le cinéma de Blier reflète tout simplement l'état de la société française au fil des films et au fil des ans, depuis Hitler connaît pas 1963 jusqu'à Convoi exceptionnel, le dernier en date, en 2018. Et puis au final, quelques éclairages très intéressants aussi sur plusieurs obsessions en quelque sorte de Blier. Et je cite cette belle définition de la préfacière de l'ouvrage, Claire Micalef, qui dit à propos du cinéma de Blier, un cinéma hirsute et imprévisible qui malaxe la réalité pour en faire surgir le cocasse, l'absurde, l'impensable et souvent l'improbable. Je trouve que c'est une très belle définition. Donc ça s'appelle, je le disais, Bertrand Blier, Cruelle beauté, de Vincent Roussel aux éditions Marest. Très belles éditions cinéma.
L'autre livre, Laurent, c'est Rickman, l'aventure d'un exploitant de cinéma à Montparnasse. Ça, c'est un...
Je suis sûr que vous avez fréquenté les cinémas de Joseph Rickman, Jean-Paul Rapneau. Ils existent depuis les années 30, où cet homme avait créé deux salles dans le 14e, à Alésia et à Montparnasse, oui, au Miramar. Les salles ont été confisquées sous l'occupation, bien évidemment, quand on s'appelle Joseph Rickman. À la Libération, il en crée trois nouvelles, le Bienvenue et les Montparnaux. Et dans ce bel album, Axel Huyghe et Arnaud Chapuis rendent hommage à cet entrepreneur en quelque sorte de cinéma. Les vicissitudes de la vie ont fait que le groupe s'est peu à peu étiolé. Il reste un cinéma, le Bretagne, toujours géré par la fille que nous connaissons ici, Benjamin Rittmann, quel beau nom, qui gère ces deux écrans encore comme une sorte d'îlot de résistance face au grand groupe dans ce quartier Montparnasse qui aura été un grand, grand quartier de cinéma. Rittmann, l'aventure d'un exploitant de cinéma à Montparnasse, c'est chez L'Harmattan.
Deux films, deux DVD. Alors, d'abord le coffret La Nouvelle Comédie Française, édité par Shellac, avec notamment un film qu'on aime bien, c'est La Fille du 14 juillet de Antonin Peredjatko.
Oui, avec en plus Apnée de Jean-Christophe Meurice, vous savez, le créateur des Chiens de Navarre, et puis Gaz de France, Benoît Forchard. Bon, on peut avoir des avis un peu mitigés sur l'ensemble, mais en tous les cas, le beau film de Peredjatko, c'est indispensable. Et ce qui est très intéressant, au fond, c'est que est rassemblé sous le titre Nouvelle Comédie Française, ces trois films produits par la même personne, Emmanuel Chaumet de Etche Film, qui produit aussi Justine Trier, Sophie Le Tourneur du Castanet Martin. Donc c'est vraiment une sorte de nouvelle vague française.
C'est un genre de Borgard moderne.
Oui, c'est ça, et qui s'intéresse évidemment énormément à la société française, ses contradictions, traversée, tout ça. Donc ce coffret rend hommage, c'est un coffret Shellac, Nouvelle Comédie Française, c'est vraiment à voir.
L'autre film, c'est un très grand cinéaste anglais qui s'appelle Lindsay Anderson, et ce film c'est Britannia Hospital.
Incroyable, 1982, cette farce n'a rien perdu de sa force, elle s'intéresse au Royaume-Uni des années 80. Alors il tire sur tout, Anderson, les médecins, les syndicalistes, la presse, les opposants politiques, mais aussi la reine évidemment. Et dans ce jeu de massacre, au centre trône notamment Malcolm McDowell, oui, d'Orange Mécanique, lui-même en personne. C'est méchant, mais vraiment pas bête du tout, c'est pour ça que ça se revoit très très bien. Britannia Hospital, Lindsay Anderson, chez Dorian Film.
Bah, Malcolm McDowell, il était dans If de Lindsay Anderson, qui avait eu la palme d'or.
Vous avez tout à fait raison.
À l'époque.
De le rappeler.
On termine avec un cadeau pour vous, Jean-Paul Rapneau, un double cadeau, Laurent.
Oui, double cadeau, deux films patrimoniaux français avec deux acteurs, Rému et Jouvet, deux polars, l'un de Jean Dréville, l'autre de Grémillon, Jean Grémillon, deux mêmes histoires de dualité, c'est-à-dire un père tranquille qui est en fait un joyeux ou un triste délinquant la nuit. C'est copie conforme pour l'un, l'étrange Monsieur Victor de l'autre. Alors, c'est tout à fait étonnant, notamment de redécouvrir, je crois que vraiment Grémillon, il faut définitivement réhabiliter Grémillon dans le cinéma français, Lumière d'été, Remorque.
Et, ah, bien et, sûr.
Vous êtes d'accord?
Ah, bien sûr, bien sûr, mais enfin, le réhabiliter... Oui, enfin non, il n'a jamais été mis de côté quand même.
Totalement, mais un peu quand même, un peu tenu à l'écart, voilà. Bon, il n'apparaît pas forcément dans les tout premiers qu'on cite, comme Renoir par exemple, alors que, en tout cas à mes yeux, c'est un immense cinéaste. Et cet étrange Monsieur Victor, qui était à la base d'une œuvre de commande, se révèle être un film d'auteur incroyable, avec des noirs et blancs sublimes, avec une réflexion sur les persiennes, des volets de cette maison toulonnaise dans laquelle on est. Et ce qui est très intéressant, c'est que le scénario scénariste de copie conforme, eh ben c'était Henri Janson. Et Henri Janson, il a eu un jour la mauvaise idée de dire que l'étrange monsieur Victor était un navet. Ce qui prouve que parfois, on peut être un très grand dialoguiste, un très grand scénariste, un très mauvais spectateur. Ces deux DVD font l'objet d'un combo DVD Blu-ray chez Pathé, et avec à chaque fois un beau, très très beau documentaire très éclairant sur ces deux films qu'on vous recommande vivement et qu'on est très heureux, que Pathé aussi est très heureux de vous offrir. Jean-Paul Rapneau.
Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Copie conforme de Jean Dréville, et je fus l'assistant de Jean Dréville. Je me demande même si je n'étais pas que stagiaire. Non, j'étais second assistant. Mais pas dans ce film-là. Hein.
Non, pas dans ce film-là, je vous confirme. Pas au générique.
Non. Jean-Paul Rapneau, votre prochain film, c'est un livre. C'est vos souvenirs.
Oui,
et... il sort quand, ce livre?
Ben, il faudrait vraiment... Attendez, on est au mois de mars.
Oui.
Oui. Mais je pense qu'il ne sortira qu'au printemps de l'année prochaine.
Ah d'accord.
Comme ça.
Donc, on l'attend avec grande impatience.
Ah, vous verrez, ça sera pas mal.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vraiment, ce fut un immense plaisir. Et d'ailleurs, c'est vous qui allez signer la fin de cette émission, puisque c'est vous qui allez signer ce générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delru a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacamp. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Jean-Paul Rapneau, j'y étais.